Vous écoutez RTL. Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour des histoires, des destins, des secrets et du Thomas Hugues.
Mais oui, il est là, comment ça va Sidonie?
Très bien.
Bienvenue à tout ce programme. Donc l'histoire d'un géant du cinéma français. Vous venez de nous entendre avec Marco, Alain Delon, qui va bientôt fêter ses 80 ans. L'occasion de retracer les grandes étapes de sa carrière avec un réalisateur qui l'a fait tourner dans un film. C'était Une chance sur deux, avec Belmondo et Vanessa Paradis, réalisateur qui le connaît bien, Patrice Lecomte.
On va vous proposer aussi un tour du monde des cimetières les plus incroyables, droits comme des buildings, flottant sur l'eau, enfouis sous des dunes d'herbes tendres, des cimetières par exemple réservés aux animaux ou encore aux morts-nés. C'est un voyage étonnant, émouvant forcément, vers l'au-delà qui nous attend. Et tout de suite, demain, la Terre.
RTL.
Quelle fin attend l'univers ? Va-t-il se déchirer en un éclair, s'effondrer sur lui-même, ou mourir de froid lentement ?
La curiosité est un vilain défaut.
Les scientifiques imaginent l'inimaginable.
Jusqu'à 22h,
ils enquêtent sur une mort annoncée. Dans un premier scénario, la gravité contracte l'univers comme quand on dégonfle un ballon et l'univers revient à sa taille d'origine. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch, le grand effondrement.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est le plus passionnant des films, un scénario plein de catastrophes et de renaissances, une saga sur plusieurs milliards d'années. Bienvenue dans le futur de notre Terre, c'est le dossier passionnant du magazine Science et Vie de ce mois-ci. Bonsoir Émilie Rocher.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue avec votre collègue journaliste Vincent Nouériga. Vous avez enquêté sur ce sujet. Alors on apprend, c'est vrai tous à l'école, que la Terre va finir engloutie par ce soleil qui sera devenu une énorme boule rouge. Et pourtant il y a de nouvelles études scientifiques qui révèlent une histoire plus passionnante, plus compliquée. Combien d'années en fait reste-t-il déjà à vivre pour cette Terre, pour notre Terre ?
Eh bien pour notre Terre, environ 5 milliards d'années, plus ou moins ce que voudra bien nous laisser le Soleil en fonction de ses derniers soubresauts.
Ça veut dire que notre Terre, elle est jeune ou vieille finalement, ou elle est au milieu de sa vie, dans ses 40 ans ?
En fait c'est ça.
Pour sa quarantaine.
Pardon, c'est ça, elle est à peu près au milieu de sa vie. Notre système solaire a à peu près commencé à se former il y a 4,6 milliards d'années. Donc ce qui fait que la Terre en tant que planète vivra encore à peu près autant. Pour la vie, ça sera un petit peu plus court.
Alors pour imaginer ce que va être le futur de notre Terre, il faut aussi regardez dans le rétroviseur. Alors un rétroviseur qui porte très très loin. Il faut aller loin dans le passé. Quelles sont les grandes étapes, les grands moments vécus par la Terre? Par exemple, il y a 700 millions d'années. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, avant d'arriver, excusez-moi, aux Allez-y. 700 millions d'années, c'est vrai que la Terre, sur plus de 4 milliards d'années, elle a vécu énormément de choses. Et la première partie, c'est peut-être là où il va y avoir le plus de choses. Ça va être les grands travaux. C'est là que la Terre se forme, que le noyau se met en place, qui va du coup permettre la formation du champ magnétique qui nous protège. Et c'est là aussi que se forme la croûte terrestre qui va donner les continents. Après cette première période, on va dire, tout se met en place à la surface de la Terre. Donc c'est là que va apparaître la vie. C'est là que la Terre se couvre du coup de végétation, qu'arrivent aussi les animaux. C'est là qu'apparaît l'oxygène, avec toutes ses conséquences. Et c'est là du coup que s'enclenche la grande machine qu'on connaît aujourd'hui, avec des grands cycles, dont les cycles de glaciation, dont le dernier épisode date d'il y a environ 700 millions d'années.
Donc c'est ça, c'est la glaciation il y a 700 millions d'années.
Ça veut dire quoi ? C'est la Terre complètement gelée ?
C'est effectivement l'épisode qu'on appelle la Terre boule de neige, boule de glace, où tout en fait est recouvert d'une glace géante.
Alors ce qui est fascinant aussi, c'est d'imaginer notre Terre. On a aujourd'hui tous en tête les photos qui ont été prises depuis la Station Spatiale Internationale ou les différentes missions spatiales, donc on voit la Terre. Elle ne ressemblait pas du tout à ça, il y a quelques centaines de millions d'années, notamment les continents, ça ressemblait à quoi ?
Voilà, donc après le grand cycle des glaciations, il y a aussi le grand cycle de la tectonique des plaques, parce qu'en fait notre planète, elle est vivante, elle n'a pas besoin de la vie telle qu'on la connaît pour bouger, elle bouge toute seule avec ce noyau, ce magma qui l'entoure, et donc les continents en fait à la surface se baladent, et il y a 700 millions d'années, ils étaient tous regroupés au même endroit, ce qui formait ce qu'on appelle un supercontinent. Et le dernier en date, ça s'appelait la Pangée. C'était effectivement il y a environ 250-300 millions d'années.
Et ce qui est passionnant aussi dans ce Science et Vie, c'est qu'on découvre qu'en Antarctique, il y a 50 millions d'années, c'était pas du tout tout blanc, ni tout gelé.
Et voilà, parce que les continents se baladent et donc des fois...
les saisons non, aussi.
Les saisons et puis...
Les climats en tout cas.
Voilà, l'équateur n'était pas forcément à l'équateur. Paris était sous une mer tropicale et l'Antarctique était vers une forêt luxuriante. Donc tout ça a beaucoup bougé.
Alors pour se projeter, pour comprendre l'évolution de la planète Terre, il faut prendre en compte le facteur X. Alors là... Moi, je suis perdu.
C'est quoi c'est un rapport avec vous, Thomas.
C'est quoi le facteur X?
Alors, le facteur X, en fait, c'est tout l'imprévisible, l'impondérable. Ça peut être un gros astéroïde, une météorite qui tombe sur la planète. Mmh. Bon, les dinosaures seraient encore là, ils s'en rappelleraient. Mais ça peut aussi être l'homme. Parce que l'homme, en fait, c'est un peu un cas particulier sur la planète. C'est le seul qui, pour l'instant, a été capable de modifier entièrement sa biosphère en relarguant un petit peu tout, des gaz, des matériaux qui n'y étaient pas forcément, ça peut être les plastiques, etc. Donc, c'est pour ça que les scientifiques hésitent à appeler l'ère dans laquelle nous sommes l'Anthropocène, l'homme qui aurait façonné effectivement l'époque dans laquelle on est.
Mais Émilie Rocher, il nous reste combien de temps à vivre sur cette planète? Parce que notre vie est limitée aussi, on fait partie d'un cycle, d'un grand cycle.
Oui, alors on pourra faire ce qu'on voudra, beaucoup de choses, mais on n'en verra pas forcément les conséquences parce que toute espèce, en fait, a une espérance de vie.
Même nous.
Tout comme un être humain va vivre, s'il a de la chance, 120 ans, si on peut dire. Mais l'espèce humaine
ça
va...
Ça dépend dans quel état,
vivre,
effectivement.
Tout à fait. Et les espèces, c'est pareil. Ouais. Une espèce va vivre plusieurs millions d'années, jusqu'à 20 millions d'années pour certaines. Nous sommes des mammifères et en général, on considère que les mammifères vivent en gros 2,3 millions d'années.
Donc il nous reste combien de temps?
Alors, l'homme en tant qu'homo sapiens est apparu il y a environ 100-200 millions d'années. Donc
voilà. Il nous reste 2 milliards, ah oui. 2 milliards, 200 millions d'années à
2
peu
millions.
Près.
2 millions.
Ah oui, 2 millions.
Oui, la durée de vie des mammifères.
Ah oui, 2 millions, 200 000, voilà. 200 000, d'accord, ça y est, j'ai reconnecté. Bon, donc on ne verra pas la fin de la Terre, si j'ai bien compris.
Non. Elle alors survivra. Après, on est peut-être un petit peu... On fait peut-être un petit peu des choses des fois avec le transhumanisme, le génie génétique. On s'imagine peut-être qu'on pourra prolonger, changer notre forme. D'ailleurs, les espèces évoluent. C'est pas parce que nous, en tant qu'humains, nous n'existerons plus qu'on n'aura pas de descendants. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures qui ont commencé dinosaures, T-Rex et compagnie et qui ont fini oiseaux.
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme genre de descendants?
Comme genre de descendant.
Vous avez planché là-dessus.
Ça va tellement dépendre en fait de l'évolution de l'environnement que du coup c'est pas facile de dire.
Allez, dans un instant, on continue de vous raconter le film de notre planète et ça commence avec quelques grandes catastrophes naturelles. À tout de suite les curieux.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Notre Terre est âgée de 4 milliards 500 millions d'années. Elle n'est qu'à la moitié de son existence. On vous raconte ce qui attend nos descendants dans les millénaires, les millionnaires à venir avec nos confrères du magazine Science et Vie. C'est Émilie Rocher qui a participé à ce dossier de Science et Vie qui vient nous raconter, nous éclairer sur cet avenir terrestre. Alors les scientifiques, ils ont imaginé, Émilie, une espèce de calendrier d'événements, j'ai même envie de dire de catastrophes. On va les parcourir ensemble. Alors de maintenant à plus 100 millions d'années, on peut s'attendre à de grandes catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui permet de dire ça en fait?
Eh bien, en fait, c'est la Terre elle-même parce qu'elle est son propre livre d'histoire. Quand on regarde en fait les couches géologiques, les cratères, les fossiles qui sont planqués entre différentes couches, eh ben du coup on peut comprendre ce qui s'est passé avant. Alors c'est un petit peu dans le désordre, il y a encore beaucoup de trous, mais du coup effectivement ça nous permet de découvrir les grands cycles dont on a parlé tout à l'heure, glaciation, déplacement des continents et pourquoi pas aussi extinction. Enfin bref, c'est toute l'histoire qui se déroule.
On voit les différentes extinctions d'espèces par exemple si on regarde dans le livre du passé de la Terre.
Tout à fait, parce qu'on va voir par endroit une multiplication de fossiles d'une espèce donnée ou de toutes les espèces, et du coup, ben, des fossiles qui étaient disparates, qui se retrouvent tous regroupés, ça veut dire qu'ils sont tous morts d'un coup, et donc il y a eu une extinction.
L'une des premières grandes catastrophes naturelles serait cet état glaciaire, cette terre boule de neige. Que peut entraîner de tels coups de froid sur la Terre?
Alors, pas forcément une grande extinction, oui, parce que les glaciations à venir, elles vont être importantes, recouvrir la terre de glaciers, on va voir les forêts, les zones tempérées diminuer petit à petit. Comme l'eau se transforme en glace, les océans vont eux-mêmes baisser, donc ça va tout chambouler, mais pas au point de chasser la vie, parce que la vie, une fois qu'elle est là, elle est quand même très tenace.
Et les volcans qui arrivent après, qui pourraient rugir d'ici à 100 millions d'années, ça, pour la vie, j'imagine que...
Alors, c'est aussi un problème, mais pas forcément une disparition totale, même si ça peut causer de gros problèmes locaux. Le problème avec les super éruptions, c'est qu'elles relarguent énormément de poussière, de matière volcanique dans l'atmosphère. Donc, ça obscurcit tout, moins de lumière, donc forcément des plantes plus malheureuses, moins de chaleur, puisque les rayons de soleil ne passent plus. Et puis, on appelle ça parfois un hiver nucléaire, pour dire que ben, c'était quand même pas très gai. Ou ce sera, du coup, pas très gai.
Oui, parce que ce qui s'est passé avant peut ou va se reproduire. Donc on est très loin, puisqu'on parle d'éruption volcanique, de ce qui existe aujourd'hui. Quand on parle d'une super éruption, voilà. C'est quoi ? C'est 10 fois, 100 fois une éruption actuelle ? Je ne me rends pas compte. En puissance ?
En puissance, la dernière grande, elle date de 74 000 ans. Elle s'est passée à Toba, en Indonésie. Et on estime qu'elle a... peut-être pu un peu jouer sur la sortie d'hommes d'Afrique, parce qu'elle a un peu tout modifié l'environnement à cette époque. C'est-à-dire que ça, une éruption volcanique, ça va impacter la région autour du volcan. Une super éruption, ça peut être une chaîne de volcans qui se met en branle, ça peut être jusqu'à 600 km3 de matière qui est rejetée dans l'atmosphère. Donc en gros, c'est une Pompéi à l'échelle de la planète.
Ah oui, c'est gigantesque. Voilà. Et alors, est-ce qu'il faut lever les yeux vers le ciel ? Parce que est-ce qu'on risque de, comme nos ancêtres qui risquaient de voir le ciel leur tomber sur la tête, est-ce qu'on va prendre quelque chose sur la tête ?
Ah oui, parce que ça serait quand même pas rigolo si tout venait de la planète. La planète n'est pas responsable de tout. On peut aussi se prendre une météorite, donc ou un astéroïde plus ou moins gros. CF les dinosaures de tout à l'heure, mais on peut aussi se prendre des bombardements de radiation, parce qu'il y a aussi des événements astronomiques très importants, des étoiles qui explosent, etc., qui vont nous bombarder de radiation, des rayons gamma, des rayons X, des UV. C'est déjà arrivé, on estime qu'ils ont pu être responsables de certaines grandes extinctions par le passé.
Et donc on est bien d'accord, Émilie Rocher, tout ça, ça se passe dans la période où l'humain, c'est-à-dire nos lointains descendants, sont encore sur la Terre. L'espèce ne s'est pas encore éteinte, c'est ça ?
Alors, pour les glaciations et les super éruptions, on a la chance, si l'on peut dire, de pouvoir en revoir une éventuellement, puisque c'est en gros tous les 100 000 ans. Pour les astéroïdes, c'est un peu plus long. Donc, pour le gros feu d'artifice, c'est environ tous les 100 millions d'années. Donc là, il faudrait qu'on soit vraiment bon. Et les bombardements cosmiques, alors là, c'est plus aléatoire.
D'accord. Alors, dans ce calendrier qu'on va afficher dans notre cuisine, qui est assez effrayant quand même, de 100 à 500 millions d'années. Donc là, a priori, on n'est plus là du tout. Nos continents vont de nouveau bouger. Donc, il y avait la Pangée il y a plusieurs millions d'années. Il y a les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Et dans 100 à 500 millions d'années, un autre super continent, il va ressembler à quoi ?
Il va ressembler à quoi ? Alors, les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Il y a plusieurs projets qui ont été rendus possibles, enfin, publics, si on peut dire. La dernière estimation, ça serait que tout le monde, sauf l'Antarctique, se retrouverait dans l'hémisphère nord, donc c'est-à-dire l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie. Hop, tout ça, ça ferait un gros pâté dans l'hémisphère nord, avec l'Antarctique tout seul en bas. Il est puni.
Et ça a un nom, ce futur supercontinent ?
Amazia.
L'Amazia.
Voilà.
Donc c'est bon, bah écoutez, de toute façon on ne sera plus là pour le voir. Tout ça, est-ce que ça a des conséquences sur l'équilibre, alors je ne sais pas si c'est le bon terme scientifique, mais chimique de la planète entre l'oxygène, le dioxyde de carbone, etc. Est-ce que ça aussi, ça va se modifier, évoluer dans les...
Oui, bien sûr, parce que...
Dans le futur lointain, très lointain.
Aujourd'hui, la vie est dispatchée sur plein de continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, etc. Donc de regrouper tout ça sur le même continent, ça va effectivement avoir de gros effets. Déjà, toute la vie océanique se regroupe principalement sur le plateau continental qui est à faible profondeur. Comme il n'y a quasiment plus de côtes, il va y avoir déjà beaucoup moins de vie océanique. Les courants marins vont être chamboulés. Et sur les terres elles-mêmes, les vents eux-mêmes vont être impactés. Les chaînes de montagnes vont changer de visage, elles vont être gigantesques, beaucoup plus hautes. Et au milieu de tout ça, ça va être un désert gigantesque, un climat continental. Donc la vie aura vraiment un visage très différent de ce qu'on a aujourd'hui.
Bon, bah, il faut bien chanter une chanson pour notre bonne vieille terre. Avec tout ça, c'est Michael Jackson qui s'en charge. Et puis on vous retrouve juste après. Au menu, ben, il y aura plus d'océan, il y aura le chaos et puis le soleil en colère.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Imaginez un astronaute qui aurait un jour décidé d'aller explorer les limites de l'univers.
RTL.
Plus tard, il revient sur Terre. Les continents se sont-ils réunis pour ne plus former qu'un seul et unique supercontinent ?
Jusqu'à 22h.
L'eau, le vent, la glace n'ont-ils laissé que des fossiles de notre civilisation ? Que reste-t-il de notre passage sur Terre ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À quoi va ressembler notre planète dans quelques millions ou milliards d'années ? C'est le voyage passionnant que nous propose le magazine Science et Vie avec la journaliste Émilie Rocher. Le temps file, on continue de feuilleter ce calendrier du temps qui reste à la Terre et aussi à la vie sur Terre. Nous sommes déjà entre 500 millions d'années et 1 milliard d'années. Et là, il y a une chute très forte de dioxyde de carbone. Alors comme ça, moi je me dis, je vois pas trop le problème. En fait, il n'y en aura pas assez et ça va provoquer quoi ?
Alors déjà, pour une fois, ça ne sera pas notre faute. Là, on provoque l'apparition de beaucoup de CO2. Mais ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est le soleil. Parce que c'est lui qui nous éclaire, etc. Mais le fait est que le soleil vieillit. Et plus il vieillit, plus il devient lumineux. Ça peut paraître cool comme ça, mais en fait, ça va provoquer une accélération du lessivage des sols. Ça va altérer certains matériaux chimiques. Les silicates, qui vont du coup absorber de plus en plus de CO2. Et pourquoi c'est embêtant ? Et bien parce que le CO2, en fait, c'est la matière première qu'utilisent les plantes quand elles font de la photosynthèse pour créer la matière organique. Donc moins de CO2 égale des plantes toujours moins grandes, moins vives. Et là, c'est le début du drame.
Alors c'est le début du drame, mais avec quand même l'apparition, ou en tout cas la résistance de plantes vasculaire, ça veut dire quoi ? Ça ressemble à quoi ?
Alors en fait, c'est celle qu'on connaît. Il existe effectivement différentes catégories de plantes en fonction du type de photosynthèse qu'elles font. La plupart de celles qu'on connaît, les plantes à fleurs, les légumes, ce sont des plantes dites en C3, c'est-à-dire c'est la façon dont elles utilisent le CO2 pour faire la matière vivante. Le problème de ces plantes, c'est que elles ont besoin d'une certaine quantité de CO2 pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire. Et aujourd'hui, on a environ 400 ppm parties par million CO2 dans l'atmosphère. Et elles peuvent faire ce qu'elles font jusqu'à environ 150-100. En dessous de ce seuil, eh ben, elles vont grandir moins vite. Elles vont de moins en moins bourgeonner. Et du coup, nos forêts, ça ne veut plus qu'être de tout petits rogatons végétaux. Et pour manger, ça va être plus compliqué.
C'est ça les plantes vasculaires ?
Oui. Ouais. Ce sont les plus courantes.
Donc ce que vous nous décrivez, Émilie Rocher, c'est la disparition de la vie.
Tout à fait.
Sur Terre, tout
parce
simplement.
Que les plantes, c'est à l'origine de tout. C'est à l'origine donc de la matière organique, donc ce qu'on mange, mais c'est aussi à l'origine de l'oxygène. Donc plus de plantes égale de moins en moins de nourriture, égale de moins en moins d'oxygène. Donc tous les animaux qui utilisent ces deux composants, ils vont disparaître peu à peu.
Alors si on continue d'avancer comme ça dans un futur très très lointain, au-delà d'un milliard d'années, on va vers un réchauffement majeur. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ?
Alors, effectivement, puisque plus le soleil vieillit, plus il devient lumineux, environ 1% en plus tous les 100 millions d'années. Donc, après, c'est difficile de donner une température claire, parce qu'il y a d'autres mécanismes, bien entendu, qui vont rentrer en ligne de compte. Mais ça peut monter jusqu'à 70 degrés, 100 degrés, et certains évoquent même 1400 degrés. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la Terre. Par exemple, l'eau qui est partout et qui bout à 100 degrés, effectivement, elle va risquer de disparaître.
Donc
avec
plus
cette
de
température.
Plus d'océan, plus de mer.
Voilà,
sur notre
c'est une
planète.
Des conséquences possibles. On pourrait se retrouver sans eau. Alors là, les avis des scientifiques diffèrent. Certains disent que l'effet de serre, donc cette hausse de température qui provoque l'évaporation de l'eau et donc des océans risque de s'emballer. Et dans ces cas-là, les océans, les mers s'évaporeraient et disparaîtraient dans l'espace. Et là, plus d'eau du tout. Ou alors, il en resterait un petit peu. Ça dépend des modèles.
Alors, parallèlement à ce réchauffement climatique, il y a aussi des forces astronomiques qui sont à l'œuvre. Mm-hmm. Quelles sont-elles et qu'est-ce qu'elles vont engendrer ?
Alors,
là, on est au-delà de la Terre. C'est autour de la Terre, c'est dans l'univers.
Tout à fait. Là, ça peut être la Lune, qui est jusqu'ici notre voisin bien conciliant, mais on peut un peu bouleverser le couple qui nous lie. Il y a le Soleil, bien sûr, mais ça peut être après toutes les autres planètes de notre système solaire qui vont avoir des orbites qui changent, qui se déforment, et là, ça peut être un jeu de quilles cosmique.
Mais alors, pourquoi la Terre et la Lune...
C'est-à-dire qu'on rentre en collision, c'est ça ?
Eh bien, c'est-à-dire que Mercure, par exemple, qui est la planète la plus proche du Soleil, elle est assez instable. Donc avec le temps qui passe, bon, c'est difficile de prévoir, mais elle pourrait sortir de l'orbite qu'on lui connaît et venir effectivement perturber tout le petit jeu qu'on connaît et qui s'est bien mis en place. Donc ça peut être bouleverser l'une, sortir l'autre...
Et pourquoi la Terre et la Lune ne s'entendraient plus ? Émilie Rocher, moi ça m'inquiète, ça, c'est quand même un couple...
Depuis
la une de tous les magazines,
depuis Trainet, on sait que c'est merveilleux, donc entre la Terre et la Lune.
Mais en fait, la Terre tourne sur elle-même et ça joue sur la distance Terre-Lune. La Terre tourne en fait de moins en moins vite et donc du coup, elle risque de moins en moins attirer la Lune. Donc il peut y avoir la Lune qui s'en va ou qui se rapproche.
Bon les amis, ça commence sérieusement à sentir la fin là,
oui,
quand même.
Alors... Si on réussit à échapper au jeu de quilles planétaire, qu'est-ce qui va se passer ?
Il y a le soleil qui nous guette, prêt à s'embraser pour nos beaux yeux et à nous engloutir. La fin du monde, c'est tout de suite les curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.
Ben oui, le soleil a rendez-vous avec la lune, sauf que dans quelques millions d'années, ça sera peut-être plus compliqué.
Ça va casser.
Histoire d'amour, voilà, peut-être un divorce entre la lune et la terre. En tout cas, demain la terre, c'est le titre du dossier du magazine Science et Vie de ce mois-ci. On se projette dans... 100 millions, 500 millions, 1 milliard, 3 milliards d'années. Vous imaginez l'ambition de la curiosité ce soir grâce à Émilie Rocher. Alors là, on est entre 5 et 8 milliards d'années, donc on approche de la fin de l'histoire. C'est ce que vous nous disiez. Et c'est, si j'ose dire, le feu d'artifice. Si l'espèce humaine, elle aura disparu depuis longtemps, mais était encore sur Terre, qu'est-ce qu'elle verrait ?
Alors déjà, elle aura intérêt à avoir de bonnes lunettes de soleil parce que le soleil qui donc continue son agrandissement, passe de petite naine jaune, qu'on aimait bien, sympa, à une géante rouge. C'est-à-dire qu'il a grossi, jusqu'à atteindre près de 200 fois sa taille actuelle. Et là, ça commence à chauffer sévère.
Et pourquoi ça grossit ? Pourquoi le soleil va grossir comme ça et devenir beaucoup plus lumineux, 3000 fois plus lumineux que le soleil que l'on connaît actuellement ?
Tout ça, c'est dû en fait au mécanisme interne au Soleil. Le Soleil, à l'intérieur, c'est principalement de l'hydrogène, à 75%, et de l'hélium. L'hydrogène fusionne petit à petit pour former de l'hélium. Et le Soleil, quand il arrivera à bout de carburant, c'est-à-dire d'hydrogène, eh ben, les mécanismes internes ils vont un petit peu changer. Et du coup, voilà, c'est ça qui va provoquer cet accroissement.
Mais ça, c'est écrit, Émilie Rocher. On sait que le Soleil a une date de péremption, finalement, qu'un jour, il n'aura plus de pétrole pour fonctionner.
Voilà, parce qu'on a pu estimer, enfin en tout cas les chercheurs ont pu estimer ses réserves internes. On sait à quel rythme se font les réactions internes au Soleil. Et donc, du coup, eh ben, on peut calculer quand est-ce que tout ça va commencer à devenir compliqué pour lui.
Bon, donc le soleil qui grossit, devient de plus en plus lumineux, ce géant rouge ou cette géante rouge. À partir de là, il y a deux théories scientifiques qui s'opposent, si j'ai bien compris, en lisant votre magazine Science et Vie. Notre planète sera-t-elle ou pas engloutie ? Alors, c'est quoi les hypothèses ?
Alors, hypothèse 1, c'est non. Alors, pourquoi est-ce qu'avec un soleil qui grossit, on pourrait ne pas se retrouver pris dans la nasse, si je puis dire ? Ben, tout simplement parce que le soleil, en grossissant, en fait, il perd de la masse. Donc du coup, il y a moins de gravité, il va moins nous attirer, et donc la Terre pourrait sortir de son orbite pour aller un peu plus loin, se réfugier. C'est pas que ça serait très, très accueillant, mais quand même. Mais pour l'instant, on est plutôt à se dire que si, en fait, on se ferait quand même avaler, parce que même s'il y a moins de gravité, il va y avoir de gros courants, des effets de marée qui vont, eux, nous attirer quand même vers le Soleil avec des effets de frottement qui nous fixe un peu où on est.
Mais ça veut dire quoi, être englouti par le soleil? Notre Terre va quoi être, va brûler en quelques années?
Voilà, bah, littéralement.
Ouais, va fondre même?
Alors fondre, plus effectivement la couronne extérieure du soleil va grandir, se rapprocher de nous, jusqu'à nous atteindre. Et là, effectivement, la température à la surface de la planète va monter. On sait que les granites, qui sont des pierres particulièrement solides, fondent à partir de 700 degrés. Donc là, on risquerait d'atteindre les 4500. Donc en fait, en quelques années, notre planète, ça serait un petit chewing-gum fondu au cœur du soleil.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on laisserait une trace? Est-ce qu'il y aurait une trace de du passage
pas
de la Terre,
comme ça, quand même,
si j'ose dire? Est-ce qu'il y aurait une trace du passage de la Terre?
Eh bien, en fait, une fois que le soleil aura grandi, après, il va finir par se rétracter pour former une petite naine blanche. Et là, c'est tout à fait possible qu'il reste des vestiges de nous. Des débris, des rochers, de la poussière, enfin, voilà. Un petit pépin carbonisé de ce qui a été notre planète, mais quand même.
Émilie Rocher, on pense toujours être un peu le centre du monde et de l'univers, hein, nous les humains. Mais après notre Terre, ça veut dire que plus de vie n'est possible dans l'univers, ça y est, c'est fini?
Ah non. Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu ce défaut, mais il faut quand même relativiser.
Faut être raisonnable.
Tout à fait. Déjà, la vie dans notre système solaire, il n'est pas impossible qu'elle puisse émerger ailleurs. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin.
Une autre Terre, une autre...
Par exemple, on sait qu'il y a certains satellites de Jupiter ou de Saturne, par exemple, qui ne seraient pas forcément inaccueillants. C'est par exemple Europe ou Titan, où il pourrait y avoir des microclimats qui permettraient l'apparition de certaines formes de vie. Différentes, bien sûr, mais quand même de la vie. Quand on a cet épisode géante rouge, la zone d'habitabilité, donc qui est la zone où les planètes peuvent accueillir de l'eau et donc de la vie, elle se recule d'autant. Donc Mars, qui n'y est pas aujourd'hui, pourrait s'y retrouver. Donc voilà, notre système solaire lui-même pourrait nous réserver de bonnes surprises. Mais à l'échelle de l'univers, il y a peut-être encore d'autres bonnes surprises, parce qu'après tout, on n'est peut-être pas seul aujourd'hui et on risque de ne pas l'être non plus demain.
Proxima du Centaure, vous ne l'avez pas cité, c'est aussi un repli possible?
Alors, c'est effectivement une planète qui a, enfin, un système solaire qui a fait parler de lui cet été. C'est en fait le système solaire le plus proche du nôtre. Bon, c'est quand même un petit peu loin, hein. Il faudrait quand même près de 200 ou 20 000 ans pour y aller. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait ramer ses vers.
Non, mais comme c'est dans 4 milliards d'années, bon, on a un peu le temps de.
Tout à fait.
Bon, si on s'organise bien, on peut y arriver.
Vous êtes volontaire, Sidonie?
Oh, moi, je suis toujours.
Une longue hibernation.
Et en fait, c'est un type de planète qui a, un soleil qui a une espérance de vie très longue. Donc, qui a d'autant plus le temps pour voir développer la vie autour de lui.
Une toute dernière question, il va falloir y répondre rapidement, vous allez voir, c'est un peu vache. Est-ce que l'univers peut disparaître?
Vous avez 20 secondes. Vous avez 20 secondes.
Alors là, c'est une question de philosophie. L'univers, eh bien, en fait...
On casse tout ce soir dans la curiosité.
On casse tout. Alors, l'hypothèse il y a quelques années, puisqu'il faut que je fasse vite, c'était un Big Crunch, l'univers qui s'effondre sur lui-même. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de se ratatiner comme une vieille pomme, il s'étendrait indéfiniment, avec au final toutes les étoiles, les galaxies qui s'éteindraient les unes après les autres et qui nous donneraient une vaste étendue un petit peu vide, un petit peu morne, ou alors qui finirait dans une explosion gigantesque. Mais ça va dépendre de la matière noire et de certains composants des atomes, les protons, est-ce qu'ils sont instables ou pas, est-ce que du coup ils vont proposer cette immense explosion ou pas.
Défi relevé, merci beaucoup Émilie Rocher, c'est un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité, à bientôt. Et on peut lire votre dossier demain, La Terre, dans le magazine Science et Vie de ce mois-ci.
Vous écoutez RTL.